Il est 8h.
On aurait dit qu'il savait que c'était fini pour lui. Il était terrifié, il souffrait. C'était un appel à l'aide, sans aucun doute.
Elle avait 17 ans et elle a tout filmé. Les 9 minutes de l'agonie de George Floyd, c'est grâce à elle que le monde a pu les voir en mai 2020. Encore sous le choc, Darnella Frazier a témoigné et bouleversé le tribunal de Minneapolis. Nous sommes à une heure d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Les chiffres ne sont pas bons et un nouveau variant français est analysé par les spécialistes. Et puis nos données mieux protégées sur Internet avec de nouvelles règles dès demain face aux publicités ciblées. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est la cacophonie. Qui croire entre les partisans d'un confinement strict et ceux qui dénoncent l'alarmisme de certains médecins, on s'y perd. Mon invité, le professeur Gilbert Doré, chef du service néphrologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Que faire quand on est témoin d'une scène d'une violence inouïe ? En mai 2020, une jeune femme de 17 ans qui faisait ses courses à Minneapolis aux États-Unis n'a pas pu s'interposer seule face à des policiers qui maintenaient au sol un homme noir, George Floyd, bloquant sa respiration. Sa manière à elle d'agir, son arme, a été son téléphone. Elle déclenche la vidéo, les images feront le tour du monde et relanceront dans son pays le mouvement Black Lives Matter.
En ligne des États-Unis, Alexis Guilleux, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Europe 1, Alexis. Le témoignage de cette jeune femme était extrêmement attendu.
Oui, elle s'appelle Darnella Frazier. Elle a maintenant 18 ans. Elle a témoigné hors du champ de la caméra, une voix tremblante et des sanglots pour raconter ce 25 mai 2020.
I heard George Floyd saying,
j'ai entendu George Floyd dire « Je ne peux pas respirer, s'il vous plaît ». Il souffrait. On aurait dit qu'il savait que c'était fini pour lui. C'était un appel à l'aide. Un moment d'horreur pour la jeune femme et 10 mois après, ses souvenirs la hantent encore. J'ai un père noir, j'ai un frère noir, j'ai des amis noirs. Quand je les vois, je me dis que ça aurait pu être l'un d'entre eux. J'ai passé des nuits entières à m'excuser auprès de George Floyd pour ne pas en avoir fait davantage, pour ne pas lui avoir sauvé la vie. Et la journée a été marquée par un autre témoignage fort, celui de Geneviève Hansen, une pompière qui a assisté en civil à l'arrestation. Elle raconte avoir supplié la police de la laisser aider George Floyd avant d'être repoussée par un officier.
Alexis Guilleux, en ligne de New York pour Europe 1.
Taux d'incidence, hospitalisation, admission en réa, tous les indicateurs sont dans le rouge. Et Emmanuel Macron, sous la pression du monde médical, conseil de défense sanitaire, ce matin à 9h.
Et après l'anglais, le brésilien ou encore le breton, le nouveau variant qui circule a non seulement une origine, mais aussi un nom et un prénom. Henri Mondor, comme l'hôpital de Créteil qu'il a identifié, il n'est pas classé comme préoccupant, contrairement aux Britanniques par exemple, mais les spécialistes apprennent tout juste à le connaître. Victor Dolande.
Ce variant ne se limite pas à la seule région francilienne. Des cas ont été observés grâce au séquençage dans le sud de la France, mais aussi en Bretagne. Aujourd'hui, il représenterait environ 2% des nouvelles contaminations. Le variant Henri Mondor est suivi de très près par les chercheurs parce qu'il est porteur de 18 mutations, dont deux assez préoccupantes, comme l'explique Yannick Simonin, virologue à l'Inserm.
Il y a eu une des deux mutations qui est présente sur la protéine du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules qui l'infectent, et c'est cette protéine-là qui est ciblée par la vaccination. On sait que cette mutation, elle pourrait potentiellement jouer un rôle vis-à-vis de la résistance vaccinale.
Les chercheurs vont donc continuer à séquencer les nouveaux cas, autrement dit obtenir la carte d'identité génétique du virus pour savoir si ce variant Henri Mondor sera réellement plus résistant à la vaccination. Et surtout, il va falloir surveiller son évolution dans les prochaines semaines pour voir s'il peut prendre le dessus sur d'autres variants ou s'il ne restera qu'un mutant parmi les centaines d'autres déjà observés avec le Covid-19.
Victor Dolande. La Martinique, de son côté, ferme ses cinémas et restaurants à partir de demain et avance son couvre-feu de 3 heures. Contamination plus 50% sur l'île en une semaine et l'hôpital de Fort-de-France qui est arrivé aux limites de ses capacités, disent ses médecins.
L'Allemagne, dont le taux d'incidence reste 3 fois plus faible qu'en France, renforce les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France.
Oui, ce qui ne va pas rendre plus facile la vie des travailleurs frontaliers, notamment les 50 000 Mosellans qui subissent depuis début mars un test Covid tous les 2 jours. Le reportage d'Arthur Mbaché des deux côtés de la frontière.
On en a un peu marre, quoi.
Les narines en feu et en retard au boulot, dit-elle. Les nouvelles joies du travail transfrontalier, selon Martine, strasbourgeoise, employée dans une PME du Bas-de-Württemberg, et donc contrainte à ses deux tests nasopharyngés hebdomadaires.
Je suis allée à la pharmacie Port-du-Rhin, ils étaient en rupture de test. Je suis allée à la pharmacie Rive-Étoile, et enfin, midi et quart, j'ai pu me faire tester. C'est compliqué par rapport aux tests, hein. C'est désagréable. Hein. Deux fois par semaine, ça fait mal. Hein. Et donc, la peur de se faire arrêter par la polizei.
La polizei qui guette et qui va contrôler de plus en plus, dit le ministre allemand de l'Intérieur. Le chef local des pompiers, Victor Lier, coordonne les Corona Schnelltest, tests rapides, de la ville de Kiel.
Quand
on a ouvert les portes du centre, c'était énorme. Il y avait 60 personnes qui attendaient pour se faire tester, une heure de queue du matin au soir. Le premier jour, on a fait 432 tests et ce qui est réjouissant, c'est qu'on n'a eu qu'un seul cas positif.
Les grosses entreprises allemandes se mettent à tester elles-mêmes leurs salariés français. C'est déjà le cas à l'entrepôt géant de Zalando, le site de vente en ligne dans la Forêt-Noire.
Et si vous imaginez passer le week-end de Pâques ou bien des vacances en Italie, sachez qu'un isolement de 5 jours est désormais imposé aux voyageurs européens, en plus d'un test avant le départ et d'un autre après cet isolement.
C'est la clé d'une éventuelle victoire de la gauche à la présidentielle dans un peu plus d'un an. Éviter la dispersion des candidatures.
Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Benoît Hamon, Yannick Jadot leur a lancé un appel. L'écologiste veut construire, dit-il, un grand projet d'espérance pour 2022.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Selon vos informations, tous ces poids lourds de la gauche pourraient se retrouver autour d'une table.
Oui, possiblement dès la semaine prochaine, c'est en tout cas la volonté d'Yannick Jadot. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, nous dit-on dans son entourage. Son initiative est bien accueillie par une partie de la gauche. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui plaide pour l'Union depuis plusieurs mois, a tout de suite répondu favorablement.
C'est l'évidence, oui, il faut un rassemblement. Et quand Yannick Jadot tend la main, je la saisis. Il faut se mettre d'accord sur un projet de coalition et ensuite voir quel est celui ou celle qui peut être le plus en mesure de l'incarner.
C'est la première fois que l'écologiste Yannick Jadot tend la main au leader de la France insoumise, déjà déclaré candidat. Jean-Luc Mélenchon répond oui au dialogue, pas sur un programme commun mais pour organiser une résistance commune face à l'extrême droite, comme le rappelle le député Éric Coquerel.
Là, ce qui me paraît urgent dans l'heure, c'est qu'on puisse s'opposer tous ensemble à la progression des idées d'extrême droite et même des actions concrètes de l'extrême droite qui sont une menace pour la démocratie.
Si tous sont prêts à se mettre autour de la table, l'Union, c'est une autre histoire. Un cadre communiste prévient, débattre oui, parler de primaire non. Si l'initiative de Yannick Jadot peut créer un espace de dialogue, ça ne gommera pas les différences et les divergences à gauche.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Coup de frein sur la production des Peugeot 308. La chaîne de l'usine de Sochaux est à l'arrêt depuis lundi et jusqu'à vendredi. Touchée par la pénurie mondiale des semi-conducteurs dont on vous a parlé sur Europe 1, concrètement, il manque les dalle numérique d'alimentation du tableau de bord pour près de 2000 voitures. L'affaire Estelle Mouzin, cette petite fille disparue en 2003 en Seine-et-Marne, une quatrième opération de fouille depuis hier et jusqu'à demain pour tenter de retrouver le corps. C'est à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, en présence de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, lui qui avait dit il y a un an avoir pris la vie d'Estelle Mouzin.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Si vous n'aimez pas les publicités ciblées sur Internet, la suite du journal va vous plaire. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Ils ont le nom le plus appétissant qui soit, pourtant les cookies sont aussi un outil de traçage de nos données sur Internet. Dès demain, nous allons pouvoir choisir plus clairement et plus librement si nous les acceptons. C'est la CNIL, hein, la Commission Informatique et Liberté, qui impose ces nouvelles règles. Concrètement, Aude Leroy, qu'est-ce qui change ?
Eh bien, ce qui change, c'est que dès demain, quand vous irez sur un site, vous aurez toujours la petite fenêtre qui va s'ouvrir, celle qui vous demande d'accepter des cookies, ces traceurs qui aident à la navigation, à vous identifier, à vous géolocaliser. En général, vous cliquez dessus automatiquement. Eh bien là, un autre bouton tout aussi gros va vous être proposé pour, cette fois, refuser les cookies, en tout cas ceux qui servent à capter vos données pour vous proposer ensuite des publicités parfaitement ciblées. Le but, c'est de redonner le contrôle à l'internaute de ces données, qu'il choisisse si oui ou non il accepte d'être tracé. Ça ne se fera plus dans son dos et c'est fondamental pour Clémence Côté, chef du service des affaires économiques de la CNIL.
Avant, les internautes poursuivaient leur navigation sans faire attention aux bandeaux qui leur indiquaient que cette poursuite valait consentement. Là, ils vont véritablement devoir agir. S'ils ne font rien, aucun traceur n'est déposé. Il s'agit d'un tournant, hein, vraiment, sur la reprise de contrôle des internautes sur leurs données.
Du coup, les entreprises vont être obligées d'être plus transparentes, de convaincre l'internaute de leur laisser stocker ses habitudes de navigation. Elles n'ont pas le choix. L'amende de la CNIL peut aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires.
Aude Leroy.
Ce message mystérieux du commandement stratégique de l'armée américaine.
Autrement dit, l'équipe en charge des armes nucléaires. Voici ce qu'on a pu lire sur son compte Twitter. .L.GMLXZSSAW. Alors pas de panique, hein, il ne s'agit pas du code de déclenchement de la bombe, mais d'une nouvelle illustration des joies du télétravail, puisque le responsable de ce compte Twitter avait laissé son ordinateur ouvert chez lui et l'un de ses enfants s'est mis à jouer avec le clavier.
Eh bien, à propos de jeux sur un clavier, voici une petite merveille de jeux vidéo qui vient de sortir.
Petite merveille selon Clément Le Saffre, le spécialiste d'Europe 1 en la matière, qui a testé ce jeu nommé It Takes Two, compte rendu de sa partie.
It Takes Two, c'est d'abord l'histoire de Rose, une petite fille dont les parents sont sur le point de divorcer. Très triste, elle se réfugie dans sa cabane de jouets pour faire un vœu.
Mom, Dad,
Maman, Papa, je voudrais que vous soyez à nouveau amis.
Et par la magie du scénario, May et Cody, les parents de Rose, se réveillent dans des poupées de laine et d'argile. Eux, qui pouvaient à peine se parler, sont alors bien obligés de coopérer pour retrouver leur corps et, peut-être, rallumer la flamme.
Prêt pour le tour de manège de votre vie ?
Non !
La particularité d'It Takes Two, c'est qu'on y joue forcément à deux. Chaque joueur incarne un des parents, quatre mains et deux cerveaux pour résoudre des énigmes en tout genre, terrasser un aspirateur vexé d'avoir été mis au placard ou encore aider les écureuils du jardin à vaincre une armée de guêpes. Aussi beau qu'ingénieux, le jeu rappelle forcément le film « Chérie, j'ai rétréci les gosses » avec un soupçon de féerie en plus. La maison de Rose se transforme en un terrain de jeu propice à une grande aventure. À la fois drôle, touchant et exaltant, It Takes Two n'a rien à envier à la finesse d'un dessin animé Pixar.
Clément Le Saffre, et puis ce soir, 20h45, Sarajevo, troisième étape sur la route du Mondial 2022. L'équipe de France de foot fait face à la Bosnie-Herzégovine.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1 ce matin. 8h13 dans quelques toutes petites secondes. Le professeur Gilbert Deray, chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au micro de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Belliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bienvenue à vous et bonjour professeur Gilbert Deray.
Bonjour.
Qui croire ? La quarantaine de médecins et directeurs de crise de l'APHP qui évoquent le terrible scénario d'un tri des patients si on ne reconfine pas, ou bien ceux qui dénoncent, professeur, au contraire, l'alarmisme et le catastrophisme de ces mêmes médecins irresponsables.
Je crois que c'est un mauvais débat, en fait. Parce que les données, on les connaît tous, hein, elles sont ce qu'elles sont. Et effectivement, je vais d'abord donner quelques données pour faire simple. Hein. Oui, les réas sont pleines. Oui, les chiffres sont pas bons. Et oui, les prévisions sont, je vais dire le mot, catastrophiques. Un exemple, hier, nous avons accueilli dans les réanimations en France 569 patients. C'est considérable. Hein. Ça voudrait dire 4000 par semaine. C'est le chiffre le plus élevé depuis longtemps et aussi élevé que durant les pires périodes de l'épidémie. Donc oui, les chiffres sont inquiétants.
Mais jusqu'à quel point ? C'est ça qui est important. Parce que quand on agite, pardonnez-moi professeur Deray, le spectre du tri entre les patients, quand on compare la situation dans certains hôpitaux à une situation post-attentat, n'est-ce pas une pression ? Et certains disent même un chantage exercé sur le politique aujourd'hui.
Non, moi ça, je ne prends pas le mot chantage. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ces données sont nécessaires et pourquoi les avis sont divergents. Oui, on a une situation qui est très grave. Oui, le tri non pas va se faire, mais a déjà commencé. Parce que je vous rappelle que déprogrammer des patients, c'est faire un tri. Quand je dois choisir entre une dame ou un homme qui doit être opéré d'un cancer et un autre qui a une prothèse totale de hanche qui l'invalide depuis 6 mois, c'est déjà un tri du patient que je n'ai pas à faire.
Mais que vous faites depuis longtemps. Qui est fait depuis longtemps.
Non, pas cette déprogrammation-là, pas du tout, non, non. Ce qu'on sait faire depuis longtemps, c'est... Pardon, ce qu'on fait depuis longtemps, c'est d'une autre nature. Faut-il accueillir en réanimation un monsieur ou une dame de 95 ans qui, par exemple, n'a plus sa mémoire et avec l'accord de la famille, on dit le mal qu'on va lui faire en réanimation, faut pas le faire. Je dois revenir sur votre remarque. Est-ce que la situation est grave ? Oui. Est-ce qu'elle risque de nous conduire au pire ? Oui, c'est ce que je crois disent les chiffres. Puis après, est-ce qu'il y a une discussion? Bien sûr qu'il y a une discussion, elle est saine. Mais derrière...
Vous appelez question, ça une discussion? Nous, on appelle ça...
Les tribunes, les débats...
Professeur, c'est une querelle. C'est une confrontation aujourd'hui entre un establishment médical et certains médecins.
C'est un débat. C'est pour moi un débat. C'est un débat qui est sain. Et après, là où on diverge, c'est pas là-dessus, à mon sens. C'est sur ce qu'on devrait prendre comme risque. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque réel que les réanimations qui déjà débordent demain nous oblige à choisir entre vous et moi pour savoir qui va en réa. Est-ce qu'on doit prendre ce risque?
Est-ce que c'est vraiment la situation? Patrick Peloux, président de l'Association des médecins et urgentistes de France, dit « ce n'est pas la Bérézina ». Et beaucoup de médecins de terrain disent « c'est pas vrai ». Nous ne faisons pas un tri des patients comme certains le disent, et en particulier certains de la PHP.
Je comprends. Alors, là, laissons tomber la PHP.
Ah, c'est important quand même.
Et non, parce que j'ai entendu un PHP bashing depuis quelques jours. Moi, je suis un bébé de la PHP. Et je peux vous dire.
Vous faites de la politique comme certains responsables alors de la PHP.
Et j'allais le dire. Je n'ai ni objectif politique, ni objectif syndicaux. Et quand vous regardez les autres hôpitaux, c'est la même chose. La PHP, c'est juste 10% des hôpitaux français. C'est pour ça qu'on l'entend plus. Et que c'est parce que
oui,
c'est
mais certains affirment qu'ils co-dirigent aujourd'hui le ministère de la Santé. Et en particulier avec Martin Hirsch.
Tout ça, c'est un faux débat. Est-ce que nous sommes en train de faire un tri des patients au sens des programmations? Oui. Est-ce que nous risquons de faire un tri des patients beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire qui va en réanimation, qui est sauvé? Oui. C'est ce que nous disent les chiffres et je le crains. Est-ce que je suis sûr que ça va arriver? Non. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Non. Donc, nous devons ralentir la vitesse.
Et on va en parler des mesures. Mais je reste encore une fois sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, parce que malgré tout, des questions se posent. Et moi, je vous la pose très directement. Est-ce que certains responsables ne font pas aujourd'hui de la politique, une bataille politique, et en particulier Martin Hirsch?
Mais non, mais alors, dire à ceux qui nous gouvernent, voilà ce que nous pensons, il va arriver. Et avoir un débat là-dessus, hein, ça ne me gêne pas, ça. Et nous craignons qu'effectivement, nous serions obligés de faire un tri des patients, c'est notre boulot quand même, c'est notre rôle, que ce soit Martin Hirsch ou un autre, je m'en moque totalement moi. Et j'appelle pas ça de la politique, j'appelle ça de l'alerte. Que d'autres soient en désaccord, ça s'appelle le débat. J'entendais hier matin un collègue dire, mais regardez, l'augmentation baisse. Alors vous me suivez, c'est compliqué ça. Ben, il se trouve
on
que
essaye
le
de
soir
vous suivre.
Même...
Oui.
Eh bien, c'était le contraire qui se passait, qu'on a explosé les chiffres.
Oui, mais ce matin.
C'est le débat, ça.
Attendez, je suis un auditeur d'Europe 1. J'écoute le professeur Gilbert Deray, je me dis, mais mon Dieu, alarmisme, catastrophisme. Je lis Le Figaro, je lis Patrick Peloux, je me dis, mais ce n'est pas la Bérézina. J'écoute un autre professeur, je me dis, on a encore du temps.
C'est compliqué. Alors, c'est dur, c'est même dur, c'est pas compliqué, c'est dur pour ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça que. Essayons de rester factuels. C'est pas de la politique, c'est pas du syndicalisme.
Vraiment,
croyez bien que ceux qui ont signé,
vraiment, il y a pas d'agenda pour certains.
Moi, je connais bien ceux qui ont signé. Je suis pas dans la tribune, mais je sais qu'il y a ceux qui ont signé. Je peux vous dire qu'on reçoit aucun ordre de nulle part. Nous sommes libres comme l'air. Moi, je ne reçois aucun ordre. J'ai pas de supérieur hiérarchique. Je ne reçois aucun ordre. J'ai pas d'agenda politique. J'ai pas d'agenda syndical. J'ai aucun agenda. J'essaye de dire ce que je crois être vrai. Après que les chiffres soient durs à interpréter, oui. Et là, à mon avis, où est la différence? Et c'est la seule que je voudrais souligner. C'est dans le fait de savoir quel risque nous sommes prêts à accepter. Et en face, quel risque nous voulons mettre. Est-ce que, parce que le mot qu'on ne veut pas prononcer, c'est confinement, allons-y. Hein. Est-ce qu'il faut ou non confiner maintenant? Quel avantage ça a? Quel inconvénient ça a?
Et si je vous comprends bien, si je vous entends bien, le quasi-confinement prolongé que nous vivons, parce que c'est la réalité depuis des mois, il serait, selon vous, professeur Gilbert Deray, plus dévastateur, d'un point de vue psychologique, économique, que si l'on avait opté pour un confinement dur et strict?
Permettez-moi de le reformuler juste légèrement. C'est bien le fond de ma pensée. On me dit, mais non, vous les êtes... Alors moi, je suis un confiniste alarmiste. Oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bah,
c'est-à-dire que vous ne pensez qu'au confinement strict, sans penser aux autres alternatives.
Alarmiste. Bien. On me dit depuis des mois, il ne faut pas confiner, parce que ce n'est pas bon pour la population. Mais, un, ça veut dire que j'ai accepté, alors ça je l'ai mauvaise comme médecin, 300 morts par jour, des variants qui risquent de devenir résistants au vaccin, des déprogrammations massives, on me demande 80% à la PHP. Et il faut le dire, des Covid longues, il faut le dire, des Covid longues. Ça c'est ce que j'ai accepté. Et je veux pas, moi. Et en retour, on me dit, oui, mais il fallait pas confiner parce que c'est plus dur. Mais faites-moi la démonstration, qui vous voulez, qu'un confinement de 2 mois, en décembre, janvier, c'était pire que ce que je vis depuis 6 mois, ce que nous vivons depuis 6 mois,
professeur Doré.
Et je ne pense pas que ce n'est pas démontré.
Vous avez
raison. Et je pense, si vous permettez, et je pense aussi que quand on regarde l'extérieur, eh bien c'est l'inverse.
Bon, vous parlez, et vous avez raison, on ne doit pas et on ne peut pas oublier les milliers de morts par mois en France, les Covid longs, mais là je parle aux citoyens, Gilbert Doré. Est-ce que vous n'oubliez pas tous les autres? Les morts invisibles, les victimes psychologiques, économiques, etc. C'est aussi un bilan très lourd.
Alors j'essaye pas du tout de les oublier, et c'est le contraire même. C'est-à-dire que je pense que c'est très important. Mais un, je n'échange pas les morts de demain contre les morts d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Je suis médecin, hein, pas seulement citoyen. Donc moi, mes 300 morts d'aujourd'hui, tous les jours, je ne les veux pas. Et deuxièmement, je pousse comme citoyen. Moi, je veux bien, mais je vais me répéter. Qui me montre, qui m'a démontré que ce que nous faisons depuis 6 mois, c'est moins de morts pour après, c'est moins d'impact psychologique? On me dit qu'on a explosé en pédopsychiatrie les jeunes qui viennent, qui veulent se suicider. Et je n'ai pas confiné. Moi, je vous dis que si nous avions fait différent...
Donc ça fait un an qu'on se trompe, ça fait un an qu'on laisse circuler le virus et qu'on croit qu'on peut vivre avec le virus.
C'est ce que je crois.
Bon, alors ça veut dire, professeur Doré, continuons le raisonnement, ça veut dire qu'on prend le risque en laissant circuler le virus comme à l'école, par exemple, de rendre plus résistant, si je vous entends bien, si je vous comprends, les variants au vaccin.
Alors je vais vous donner un exemple qui m'interpelle. Hein. Le variant brésilien est en train de, pas d'envahir, mais de monter fermement au Canada. Et il est ici déjà. Si jamais le variant brésilien, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, explose en France, c'est une contagiosité 3 fois supérieure à celui du variant initial. Et écoutez bien, 60-70 fois, pardon, pourcentage, pardon, 3 fois supérieure au variant initial et 0,7 fois supérieure au variant actuel, le variant anglais, c'est plus de létalité. Et clairement, c'est un risque de résistance au vaccin qui est majeur.
Mais là encore, professeur Doré, qu'est-ce qui est le plus grave ? Fermer les écoles avec toutes les conséquences sociales, pédagogiques que l'on connaît, ou garder les écoles ouvertes même si le virus circule?
Alors complexe, très complexe.
Et
la grande difficulté, bien sûr, à la télé, à la radio, c'est de faire dans la nuance. Or, il faudrait qu'on fasse dans la nuance. Avoir voulu garder les écoles ouvertes, ça, j'y suis favorable. Avoir voulu garder les écoles ouvertes, ça me paraît clé. Protéger les enfants, c'est évidemment crucial. Mais peut-on encore garder les écoles ouvertes? Le virus dans les écoles, c'est exactement le reflet de la situation dans le pays. Il y en a plein. Et on n'est plus dans une situation de contrôle du virus dans les écoles. Et donc ça veut dire que les enseignants vont se contaminer, que les parents vont se contaminer et que les enfants sont contaminés. Donc bien sûr qu'il faut garder les écoles ouvertes.
Les enfants, mais ce sont des porteurs sains quand même, rassurons un peu ceux qui nous écoutent.
Il y a des morts quand même. Est-ce que vous êtes prêt à accepter une faible létalité chez l'enfant? Non.
Mais vous avez un pourcentage?
Tout petit, mais il existe. On meurt de la Covid quand on est petit. Est-ce qu'on est prêt à accepter que l'épidémie chez les petits fasse des variants résistants pour les adultes? Eh bien non. Est-ce qu'on est prêt à accepter que les variants des enfants fassent des réinfections chez l'adulte? Non. Et enfin, permettez-moi de dire que ce qui compte pour moi, c'est pas tant de garder les écoles ouvertes que l'on s'occupe des enfants. Trouvons des solutions pour que si les écoles ou des écoles sont fermées, on s'occupe quand même des enfants par tous les moyens possibles.
Mais l'école à distance a épuisé beaucoup d'enseignants. Mais alors, prenons le raisonnement à l'inverse, professeur Doré. Est-ce qu'il y a un pays qui a contrôlé l'épidémie sur son territoire en gardant les écoles ouvertes?
Ah mais plein. Quand vous regardez... alors. Pas complètement, bien entendu. Mais quand vous regardez l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont fait la politique zéro Covid, le nombre de semaines où ils ont fermé les écoles est beaucoup plus faible que le nôtre. Et là encore, on me dit toujours, nous on a gardé les écoles ouvertes magnifiquement pendant toute l'épidémie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Comment vont les enfants? Comment on s'en est occupé? C'est bien beau de dire qu'elles sont ouvertes, mais à quel prix? Et puis en plus, on oublie quand même au passage les lycéens un jour sur deux et les facs qui sont fermés depuis des mois. Donc, si on doit fermer les écoles, à cause du virus. Et malheureusement, je crains qu'on y soit obligé. La question derrière, c'est occupons-nous des enfants correctement?
Oui.
Laissons pas à 15 dans un appartement sans manger le midi avec des violences.
Oui. Vaccination massive et confinement strict, si on vous entend bien, c'est le choix par exemple d'Israël et d'Angleterre, c'est le seul et bon choix et unique choix.
C'était ce qu'il fallait faire. Je dois dire, j'ai beaucoup de regrets quand je vois ça. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Allons-y, la vaccination va nous sortir de cette crise en 2021.
Et on n'oublie pas en un mot quand même les traitements, c'est toujours l'angle oublié de la stratégie.
Alors sur le plan des traitements, 2 choses. La première, c'est qu'on a fait d'énormes progrès. On a effondré la mortalité grâce aux anticoagulants, par exemple, ou grâce aux corticoïdes. Il n'y a pas encore de traitements antiviraux efficaces. Ils viendront peut-être en 2022 ou en 2023. Mais les collègues ont extrêmement bien travaillé et on a beaucoup moins de pertes dans les réa.
Merci professeur.
Merci.
Je veux dire professeur alarmiste, catastrophiste ce matin.
Alarmiste, confiniste, optimiste.
Optimiste, on peut l'être en étant alarmiste.
On va sortir de la crise grâce au vaccin si on n'a pas de variants résistants qui apparaissent.
Merci professeur Gilbert Doré.
Ah non, moi j'ai noté,
Mathieu.
Il n'est pas trop tard pour bien faire.
Ouais. Oui, mais absolument. Ça fait un an.
Je retiens. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Il est 8h28, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Extension des restrictions, confinement plus strict ou vacances scolaires avancées. Plusieurs scénarios sur la table du Conseil de défense sanitaire, alors que dans la majorité des départements français, le taux d'incidence a dépassé le seuil d'alerte. Réunion à l'Élysée dans une demi-heure. De son côté, le Conseil d'État devrait se prononcer d'ici la fin de la semaine sur cette affaire dont on vous parlait hier. Un octogénaire francilien ayant reçu ses deux doses de vaccin qui demande à ne plus être soumis aux restrictions s'estimant protégés. Alors, est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, les gestes barrières s'imposent pour les 2 800 000 personnes qui ont reçu leurs deux injections, mais cela pourrait évoluer, Anne Le Gall.
Voilà, pour l'instant, la France joue la carte de la prudence, mais aux États-Unis, les autorités sanitaires estiment que deux personnes vaccinées peuvent se retrouver sans risque dans un lieu clos, sans masque, et qu'un Américain qui a reçu deux injections n'a pas besoin de se mettre en quarantaine quand il est cas contact. Cette adaptation des mesures barrières est aussi à l'étude en France, mais pour l'instant, statu quo, explique le professeur Elisabeth Bouvet, qui préside la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, car si le vaccin protège des formes grave du Covid, on n'a pas encore la preuve qu'il supprime totalement la transmission du virus.
Les personnes vaccinées, elles peuvent rester encore parfois porteuses du virus, mais à des taux plus faibles. Donc elles sont susceptibles éventuellement de transmettre. Donc c'est pour ça que quelqu'un de vacciné, en face de quelqu'un qui ne l'est pas, doit garder les gestes barrières. En face de quelqu'un qui l'est, je pense qu'on peut assouplir.
Des données issues de la vaccination en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis sont actuellement à l'étude pour mieux comprendre l'impact du vaccin sur les transmissions. Et selon les conclusions, le Haut Comité de Santé publique pourrait adapter ses recommandations dans une dizaine de jours.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1. La crise sanitaire et ses conséquences, selon le Forum économique mondial, elle va retarder de 36 ans, plus d'une génération, le temps nécessaire à parvenir à l'égalité femmes-hommes. Et puis aux États-Unis, deuxième volet de la relance souhaitée par le président Joe Biden. Il doit présenter aujourd'hui un plan massif d'investissement dans les infrastructures, plan qui pourrait atteindre les 4 000 milliards de dollars. Les États-Unis qui ont ordonné hier le retour des diplomates américains installés en Birmanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera aujourd'hui sur la répression de la junte militaire. Plus de 500 morts depuis le putsch du mois dernier. Les lignes de production de la Peugeot 308 à l'arrêt à Sochaux, et ce depuis lundi et jusqu'à vendredi, en cause la pénurie de semi-conducteurs. Et puis après un nul et une victoire, les Bleus face à la Bosnie dans la course au Mondial 2022. Coup d'envoi du match à 20h45.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et l'heure du froid pour le petit matin, il fait pas chaud. Mais c'est pas facile à résumer les températures que nous avons. Je vous donne un exemple. En région parisienne, 14 degrés en ce moment à Saint-Germain-des-Prés, au centre de Paris. Et en banlieue, dans le Val d'Oise, 3 degrés à Pontoise. C'est complètement fou. Déjà l'amplitude est énorme à l'intérieur d'une agglomération, enfin en tout cas c'est une très grande agglomération, l'Île-de-France, mais l'amplitude est aussi grande entre ce qui se passe ce matin, ce qui va se passer cet après-midi, où les températures vont s'échelonner entre 21 et 28 degrés, avec la poche d'air frais toujours présente sur le bassin méditerranéen, mais dans l'ensemble, ce seront vraiment des températures extrêmement élevées, je disais tout à l'heure, des records seront certainement à battre. Et il faut en profiter pour ceux qui aiment la chaleur, demain ce sera encore presque agréable, et puis à partir de vendredi, les températures commenceront à baisser. Alors j'en ai un mot, j'y reviendrai tout à l'heure, mais franchement, les températures de la semaine prochaine n'ont rien à voir et nous aurons un profil d'air froid et surtout une sensation d'hivernal qui sera particulièrement importante.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35 sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Comme la nôtre, la santé mentale des enfants est perturbée par l'épidémie de Covid et je vais vous donner quelques conseils simples pour les aider à mieux traverser justement cette période incertaine.
Notre planète avec Fanny Agostini dans la foulée et bien sûr la revue de presse Nicolas Canteloup dans 10 minutes. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La période actuelle est aussi difficile à vivre pour les enfants et adolescents, c'est vrai qu'on parle beaucoup des séquelles psy. On a parlé des plus jeunes, là, les enfants et les ados. Comment savoir quand ils ne vont pas bien, Jimmy ?
Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les enfants ou les adolescents ne sont pas des adultes en miniature. Ils ont leurs propres caractéristiques et donc leur propre façon d'exprimer une souffrance psychique. Alors quel que soit l'âge, ce qui doit vous alarmer, c'est un changement de comportement. Une rupture avec l'état antérieur. Un enfant ou un ado qui deviendrait plus colérique, plus sensible, qui aurait du mal à s'endormir ou qui aurait un sommeil moins réparateur et donc être fatigué en journée, doit vous alarmer. Il y a aussi quelques autres petits signes simples, comme une baisse des notes à l'école, une variation rapide du poids. Un enfant ou un adolescent qui grossirait ou maigrirait de façon importante doit vous alarmer. Et puis parfois, il y a des signes un peu plus subtils, comme par exemple le fait d'avoir du mal à se séparer. Ils vont devenir parfois, paradoxalement, encore plus collants que d'habitude, puisqu'ils sont rassurés lorsqu'ils sont près de nous.
Et comment on fait pour les aider alors, Jimmy ?
C'est tout simple. Il faut déjà bien comprendre que les enfants sont des éponges. Ils vont absorber toutes vos émotions et tout votre stress. Même lorsque vous ne parlez pas, ils savent que ça ne va pas. Du coup, il faut rétablir le dialogue. Ça commence par demander tout simplement à vos enfants comment ils vont. C'est bête, mais souvent on leur demande s'ils ont bien fait les devoirs, comment s'est passée la journée. Et on oublie la base, à savoir comment vas-tu. Et puis parfois le dialogue est difficile à renouer, à établir. Dans ces cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser une tierce personne, comme un oncle, une tante, un cousin, qui permet justement de rétablir le dialogue. Et parfois, le médecin traitant est un bon interlocuteur et les enfants ont plus de facilité à se confier avec eux qu'avec leurs propres parents. Et puis, ça paraît tout bête, mais le soir, essayez de leur consacrer 10 minutes. 10 minutes où vous êtes vraiment 100% avec eux. Parfois, c'est difficile, mais il ne faut pas être sur votre téléphone, il ne faut pas faire quelque chose à côté. Vraiment un rituel de soir justement pour les rassurer. Et puis, dernière astuce, en cette période, c'est difficile de fêter les anniversaires. Pour autant, c'est très important pour eux. C'est un passage rituel important. Mmh. En intérieur, c'est pas possible. Faites-le à l'extérieur. Profitez du beau temps. Réunissez quelques copains. On sait très bien qu'il n'y a pas de risque de contamination en extérieur. Voilà, faites un anniversaire à l'extérieur. Vous allez voir, ça leur
aidera. Vous n'êtes pas obligé d'être 40 non plus.
Exactement. Mais à ce moment-là, ils se diront, la vie est presque normale et c'est tant mieux.
Mais c'est vrai que ça, c'est tellement important pour eux. On le voit comme c'est important pour eux ces dates-là. Vous avez tellement raison de le souligner, Jimmy. On continue à 15h.
Exactement. Avec Louis Vera, un pédopsychiatre, il est hyper cool. C'est pas un très bon argument, mais en plus de ça, il donne des super conseils. Mais il donne des super conseils. Vous allez voir, il est génial.
C'est comme vous. Super conseil, hyper cool. Je note. Merci, docteur. 8h40 sur Europe 1. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour, Fanny.
Bonjour, Mathieu.
Vous aussi, vous êtes cool, Fanny.
Bon, ça, je sais pas.
On va parler ce matin, les amis, du blé corse. Oui, vous avez bien entendu. Alors, vous allez nous apprendre ce matin que des variétés de blé corse ont été sauvées de justesse.
Non, mais si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle est intéressante. L'histoire remonte à 1921. Ces deux variétés de blé corse avaient été données à un institut américain. Et une association corse vient tout récemment de remettre la main dessus et les a plantées aux côtés d'autres variétés de semences paysannes. Les semences paysannes, je le précise, ce sont ces graines de variétés de plantes qui ne sont pas référencées au catalogue officiel des semences et qui, donc, sont exclues de la production de cultures vouées à la vente. Avant l'existence de ce catalogue, vous savez, les paysans troquaient les semences pour s'entraider à trouver les cultures les plus résistantes et adaptables aux différents climats et sols. Aujourd'hui, c'est absolument interdit.
Oui. Alors pourquoi les associations se démènent-elles pour des semences qui ne peuvent même pas être commercialisées ?
Alors figurez-vous que ces semences sont très précieuses car leur diversité permet une adaptation au cas par cas à tous les territoires et offre des qualités nutritives et de résistance surtout au changement climatique très utiles dans le contexte actuel. Mais comme le catalogue officiel les interdit à la vente parce qu'elles ne remplissent pas les critères de productivité ou d'homogénéité, les agriculteurs ont donc cessé de les cultiver. Leur pérennité dépend donc d'acteurs non commerciaux qui les cultivent pour conserver leur patrimoine génétique. Et pour ces associations, il s'agit aussi de sensibiliser la jeunesse aux enjeux écologiques et créer du lien social. En Corse, par exemple, les associations travaillent étroitement avec les lycéens pour qu'ils récupèrent auprès de leurs aînés des variétés de plantes et qu'ils les sèment à leur tour dans le potager de leur établissement. Le but est donc vraiment de sauver cette diversité de semences et de perpétuer les savoir-faire que leur culture nécessite.
Alors, est-ce qu'on peut espérer, et même souhaiter, disons-le clairement, une autorisation du commerce de ces semences paysannes ?
Ce serait quand même, Mathieu, un sacré pas vers l'autonomie alimentaire pour ne pas avoir à dépendre des géants semenciers et aussi pour anticiper le changement climatique. C'est en ce moment un véritable combat de la semence qui se joue. Il a fallu attendre 2020 pour que l'échange non commercial de semences paysannes soit autorisé. Avant cela, les acteurs qui gentiment ne faisaient que s'échanger des semences non classées au catalogue officiel étaient dans l'illégalité totale, classée dans la même catégorie que les dealers de drogue. Sans cette législation, il aurait été
donc impossible pour nos associations corses de récupérer ces fameux blés, pourtant originaires de l'île, auprès des États-Unis. Il y a encore vraiment un long chemin à faire avant que les agriculteurs puissent redevenir des producteurs de diversité. En attendant, vous pouvez le faire dans vos potagers et ne vous gênez surtout pas à échanger des graines entre voisins, en envoyer à l'autre bout du pays, à la famille et aux amis. Ce sont ces gestes-là qui permettront de sauver la diversité. Et d'ailleurs, Mathieu, je suis en train de vous préparer un petit colis là, avec quelques surprises pour votre jardin.
Déjà, l'an dernier, je suis gâté. Moi, je reçois les semences paysannes de Fanny Agosseni depuis sa ferme de Haute-Loire. Merci beaucoup. Et c'est comme ça, on s'échange les graines, on fait perdurer les espèces. Merci Fanny Agosseni. Notre planète tous les matins, c'est sur Europe 1. 8h43, très bon réveil à toutes et à tous dans quelques secondes. La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, c'est à vous pour les infos du jour.
Oui, bonjour Julie, oui, ils sont là, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde attendre. Et oui, on attend. Attendre. On attend tous, vous savez, l'intervention d'Emmanuel Macron de ce soir qui n'aura peut-être pas lieu. Mais si elle a lieu, ce sera pour nous dire que ce sera pire. Je les sens bien les deux jours qui arrivent. Allez, l'info du jour, c'est ce poisson d'avril avant l'heure. Oui, un poisson d'avril de qui ? De Volkswagen. La marque allemande a fait croire qu'elle allait changer de nom. Et oui, malheureusement, le Touran et l'Apollo ne sont pas des poissons d'avril. Ils sont bien là, ils changent de nom. Allez, l'autre info, c'est le vaccin AstraZeneca qui a changé de nom lui aussi pour s'appeler Vaxzevria. Vaxzevria. Il change de nom mais pas de contenant. Bon, en gros, donc du coup, ça sert à rien, hein, franchement. Pierre Ménès, s'il se renomme Gisèle Halimi et qu'il continue de mettre des mains aux fesses, hein, ça va se voir que c'est toujours lui. Hein. C'est complètement con.
Gisèle Halimi.
Bah oui, en plus, changer de nom, c'est idiot. Surtout de métier qu'il faudrait changer. Hein. Avec un tel échec, le job de vaccin, il faut oublier, c'est se reconvertir. Enfin bon, après tout, remarquez, réfléchissant bien, de Domenech est bien resté entraîneur de foot. Hein. Bon, à vous, Julie.
On a eu des petits costards, là. Hein. Merci Mathieu. Le président de la République est avec nous maintenant. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Alors, on parle beaucoup de votre allocution de ce soir, bien sûr, et on ne sait toujours pas, avec certitude, si elle aura lieu.
Oui, mais écoutez, mais moi non plus, cher Julie Leclerc.
Ah bon ?
En tout cas, je ne la ferai pas demain. Ça, c'est une certitude, car il ne nous a pas échappé, cher Mathieu Béliard, cher Laurent Cabrol, que demain... Nous sommes le 1er avril.
Oui, 1er avril.
Ce n'est peut-être pas le jour idéal pour une déclaration officielle.
Non, voyez-vous. Non. Le Monde reprend une phrase de vos proches qui dit, je cite, « Le président n'écoute plus vraiment les scientifiques car il a une maîtrise des travaux épidémiologiques. »
Oui, et alors qu'est-ce qui vous surprend ? Vous savez, oui, je pourrais donner des cours à Jimmy Mohamed, le remettre à niveau au moins.
C'est ça, oui.
Non, mais écoutez, je le dis sans condescendance. Je pourrais même donner des cours de guitare à Mathieu Béliard en passant. Et à Eric Clapton aussi.
Oui, bien sûr, Eric Clapton aussi, oui.
Forcément, vous, ça va vous passer au-dessus du carafon, mais vous savez, nous les surdoués, on est des éponges. Donc oui, en un an, je suis devenu meilleur que tous ceux qui font ça depuis 30 ans.
C'est ça, oui. Allez, un mot sur votre collègue Jean-Paul Hamon, vu que vous êtes épidémiologiste.
Oui, tout à fait.
Jean-Paul Hamon.
Un confrère.
Oui, un confrère. Il est président de la FMF, la Fédération des médecins de France. Il a eu des mots très durs contre Francis Lalanne, qui a invité les 350 personnes de son concert à s'embrasser. Et Hamon a déclaré « C'est un abruti, il faut l'envoyer au trou, il va envoyer des gens en réa. » Rien que ça. Bof.
Alors, la vraie info, c'est que votre question est déjà trop longue.
Ah mais ça...
Vous avez perdu tous vos auditeurs. Mais bon, ça viendra quand vous aurez du métier, vous comprenez.
D'accord.
Alors non, la vraie info, trêve de plaisanterie, c'est que Francis Lalanne a réuni 350 personnes à un concert.
Oui.
Même si c'était gratuit, c'est énorme, c'est trop. Oui, les fans de Francis Lalanne vont donc partir en réanimation. Mais vous savez, il faut être lucide et observer un constat. Il y a plus de tubes en réa que dans un concert de Lalanne. Bon, écoutez, je crois que j'étais bon. Je vais vous laisser.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Vous savez que j'ai quasi résolu la crise du Covid. Là, donc, ce que je vais faire, je vais m'absenter 2 heures. Je vais mettre au point le vaccin contre le sida. J'ai pour 2 heures max.
D'accord. Bah vous nous tenez au courant, hein, monsieur le président.
Vous en prie.
Bonne journée. On accueille maintenant Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui.
Alors, oui, on va revenir avec vous sur la fermeture des écoles.
Bon, tant pis. Hein, j'ai...
Quoi ?
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour maintenir les écoles ouvertes. Voilà, il faut se faire une raison. Vos enfants seront complètement cons. Voilà.
Non, enfin, c'est rassurez... ce qu'ils vont devenir. Ah, allez, rassurez-nous, ils vont quand même pouvoir réussir leur scolarité, réussir dans la vie.
Oui, réussir dans la vie, oui. Dieu merci, il existe quand même quelques endroits où on peut réussir quand on est idiot.
Quoi ?
Je pense aux anges de la télé-réalité, les Marseillais W9, faire footballeur, boxeur et...
Voilà, voilà, stop,
je allez. Cherche. Sinon, c'est tout.
C'est tout. Un collectif d'enseignants porte plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon eux, votre obstination à ouvrir les écoles ne les a pas protégés de la maladie.
Non, écoutez, de toute façon, si j'ouvre les écoles, je mets en danger la vie d'autrui. Si je ferme les écoles, je mets en danger toute une génération sacrifiée. J'ai l'impression que dans tous les cas, j'ai perdu. Ouais. C'est le fameux perdant-perdant. Non, j'ai vraiment un beau métier de merde, je crois que c'est le constat que je fais. Vous voyez, les enfants, moi je suis allé à l'école, je m'adresse à eux, toute cette génération. Je suis allé à l'école et longtemps en plus. Je fais des études de plus de 10 ans. Et voilà où j'en suis, un métier de merde. Alors kiffez vos longues vacances, glandez rien et apprenez à boxer quand même.
Merci des conseils, Jean-Michel Blanquer. Un mot de cet énorme porte-container qui bloquait le canal de Suez, le Ever Given, a pu être remis à flot. Le trafic va reprendre. Mais une ONG s'inquiétait pour les 130 000 moutons bloqués à bord. Bonjour Danny Cohn-Bendit.
Oui, bonjour Thomas. Oui, je suis passé à l'heure d'été. Je suis même encore à l'heure de Thomas Soto.
Oui, bah oui, ça s'entend.
À l'heure
oui.
de sa montre orange moche, c'est de dire si je suis à la bourre. Quoi que tu disais, Julie, dans ta question encore trop longue.
Bah, je vais faire court alors. Je disais qu'une ONG s'inquiétait sur les conditions de vie des 130 000 moutons bloqués à bord.
Non mais c'est quoi cette ONG? Ils sont mignons, cette ONG. C'est super de s'inquiéter pour la santé des petits moutons, ok? Hein, mais moi, j'ai une info pour eux. A priori, je dis bien a priori, ils ne sont pas partis pour une croisière Costa pour descendre le Nil, les petits moutons.
Certes, hein,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Quand ils vont arriver à destination, ils risquent d'avoir des gros, gros problèmes de santé. Ils s'appellent le méchoui et les brochettes. Tu vois, quand tu respires, ils ne sont pas cons, les moutons. Ils font marrer, les écolos. Allez, au revoir, Thomas.
Merci, Dany. Autre chose, Karine Benzema sera jugée du 20 au 22 octobre pour l'affaire, vous le savez, de chantage à la sextape. Bonjour, Didier Deschamps.
Oui, bonjour. J'apprécie la question courte. Oui, du 22 au 22 octobre, vous dites.
Oui.
Quel dommage. C'est dommage parce que si Karim avait été disculpé en mai, ben j'aurais pu le sélectionner pour la Coupe d'Europe en juin.
C'est vrai ? Vous auriez pu faire ça ? Bon, ça veut dire qu'il a une chance pour la Coupe du Monde 2022 ?
Non, je déconne. Ah, oh, la tête d'accord. que vous avez fait. Non, jamais, jamais de la vie, bien sûr. Non. J'aurais dû vous la faire demain, ça aurait fait un bon poisson d'avril.
Bah oui. Bibi. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave hein, pour que vous le détestiez à ce point-là ? Parce que ça s'entend.
Non,
hein.
mais qu'est-ce qu'il a fait de grave ? Justement, il m'a montré la sextape de Falpoena.
Et alors ?
Ah, ben, je n'oublierai jamais ces images. Hein. C'est, ah non, voir le corps. Le petit corps d'enfant de Valbuena tout nu, non, j'avais l'impression d'être Kistan Quesada ou Gabriel Masneff. Non, je ne peux pas pardonner ça.
Mais il reste, il faut quand même que je le défende, écoutez ça, il reste un des meilleurs attaquants du monde. Et puis franchement, vos matchs de qualification pour la Coupe du Monde ne sont pas flamboyants, on peut le dire.
Oui, non, c'est sûr. Bon, néanmoins, je pense qu'on peut encore monter en puissance. Et puis, attendez,
pardon. Ah, Didier, je téléphone.
Je n'avais pas coupé le téléphone. Est-ce que vous permettez une... Oui, j'écoute.
Allô. Oui, allô Didier, c'est Emmanuel Macron.
Ah, oui, bon, pardon, je fais un vrai interview. Oui, bonjour Monsieur le Président.
Écoutez, selon mes proches, cher Didier, j'ai acquis une telle maîtrise des schémas tactiques en football que dorénavant, c'est moi qui vais faire l'équipe. Voilà, laissez tomber donc. Hein. Voilà, merci.
Oui, non mais...
C'est mieux que les spécialistes. Une sorte de don du ciel.
Bon, écoutez, on va vous laisser vous débrouiller tous les deux.
Hein. Même pas eu le temps de fond.
Bah non, bah écoutez, tant pis. Hein. On va parler maintenant des travaux dans Paris. On avait essayé hier déjà. Anne Hidalgo, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, hier, je suis. Vous m'avez coupé le sifflet. Je suis de retour. J'ai fait un faux départ hier. J'ai calé à l'allumage.
Oui, oui, bon. Alors, en 2014, vous votez pour 11 millions d'euros la construction d'une promenade urbaine entre le métro Stalingrad et le métro Barbès à Paris, qui, on peut le dire, peut-être le pire endroit hein, de la capitale.
Oui, bien, écoutez, justement, grâce à cette promenade urbaine, grâce à ce verger citoyen, avec de nombreux bacs à fleurs participatifs et des végétations éco-friendly eh bien, le but, notre but, est de réconcilier la population avec la ville citadine.
Oui, oui, seulement voilà. Dans un article du Parisien intitulé « Le fiasco de la promenade urbaine », on apprend que ces 11 millions d'euros ont été foutus en l'air. L'article dit « Ça ressemble à la cour des miracles, l'espace est peuplé de trafiquants et de SDF, les bacs à fleurs cassées servent de bar pour ranger les bouteilles, et comme la terre a été sortie des bacs, les rats y font leur terrier. » Eh ben, c'est guess.
Alors déjà, votre question
c'était
est trop longue.
C'était un peu long, oui. Mais bon. M'en suis rendu compte, oui.
Je suis apparemment pas le seul à le dire. Alors, effectivement, nous n'avons pas complètement réussi, je l'accorde, vous l'accorde, à réconcilier la population avec sa ville. Mmh. Mais, notez-le, nous avons réconcilié les trafiquants et les rats qui vivent ensemble pour à peine 11 millions d'euros. C'est quand même une vraie réussite.
Non mais franchement, sérieusement, ce triste exemple montre que les meilleures intentions ne donnent pas forcément de bons résultats, quoi.
Oui, car nous, les hommes et les femmes de gauche, nous mettons l'homme, nous mettons, comment dire, l'humain au cœur de notre système. Mmh. Bon, le seul petit problème, c'est que nous avons oublié une chose. L'humain est un gros bâtard qui s'en fout de nos potagers citoyens, qui deal de la drogue, qui ne met pas son masque, qui organise des apéros clandestins et qui urine sur les lampadaires quand il est bourré, ce gros crado de bâtard.
Merci Anne Hidalgo.
Formidable, ce sera l'humain, ce gros bâtard. Merci Nicolas Canteloup. Et bravo à Philippe Cavrivia, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, particulièrement pour ces questions longues de Julie. On va saluer les auteurs.
Qu'est-ce qu'ils
de Nicolas,
ont les auteurs là,
8h56 sur Europe 1, Philippe Vandel nous a rejoint.
Oui.
Culture Média, c'est simple, c'est la référence en termes de culture et de médias, et c'est la matinée qui continue dans la joie et la bonne humeur sur Europe 1.
Exactement, bonjour Mathieu. Enfin, quoi que le premier sujet, c'est pas tellement ni de la joie ni de la bonne humeur. Notre info média du jour, c'est l'immense crise que traverse actuellement le magazine Science et Vie. C'est le premier mensuel de France. 9 journalistes ont décidé de partir de la rédaction faute d'entente avec la nouvelle direction et leur propriétaire. Il n'en reste plus qu'un du journaliste, le rédac-chef, nommé justement par la nouvelle direction.
Et pardon, l'année écoulée nous montre qu'on a tellement besoin d'une presse scientifique indépendante de qualité. C'est tellement, tellement dommage, tellement, ça a plus de 100 ans sur ces vies.
Tellement, exactement. C'est 103, non, 1903, le lancement.
Ah oui, c'est ça.
1903, donc 20, j'arrive pas à faire le calcul. 117 ans. Comment on en est arrivé là ? Réponse avec Mathilde Fontès, c'est l'ex-rédac-chef adjointe de Science et Vie, et Hervé Poirier, l'ex-directeur de la rédaction du magazine. Au sommaire également, vous vous souvenez de Greg le millionnaire ?
Oui !
Eh bien, il revient, il fait de la télé-réalité. Ah si, Julie, vous êtes obligée. Grégory Basso qui fait son grand retour dans l'émission Les Vacances des Anges sur NRJ 12. Pour faire quoi ? Il va nous dire. Et puis le groupe Boulevard Désert, de retour avec Loin des Yeux, sa nouvelle album, j'avais jamais vu ça. 24 chansons, 12 reprises et 12 chansons qui sont presque comme des interviews, un ovni musical.
Et c'est dans Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel, comme tous les matins sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. Elle se terminera avec Emmanuel Macron à 20h qui prendra la parole, on l'a appris il y a quelques minutes. On en reparle dans le flash de 9h tout à l'heure. Moi je reviens demain matin pour vous raconter tout ça. D'ici là, le monde risque d'avoir changé. C'est ce que disait Nicolas Bétou ce matin.
Ouais, s'il parle, c'est pas bon signe.
Je vous retrouve demain à 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Thank you.